Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés du référentiel PCI DSS 3.2. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons Anthony Hubard, qui est consultant donc chez HSC QSA.
Bonjour.
Également Pierre-Emmanuel Leriche.
Bonjour.
Donc qui est également QSA. Et donc, pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc, en préambule, je souhaiterais indiquer à nos auditeurs que nous avons déjà réalisé l'enregistrement d'un épisode sur PCI DSS. Et donc, nous leur conseillons d'écouter cet épisode, peut-être, avant d'écouter celui-ci. Voilà. Hervé Schauer, très brièvement, pourquoi est-ce qu'on parle d'un référentiel et non pas d'une norme en ce qui concerne PCI DSS ?
Alors une norme, c'est un consensus entre les acteurs du marché. Donc ça sous-entend qu'il y a un accord entre les pays, qu'il y a un accord entre les consommateurs, les producteurs, les vendeurs, les utilisateurs, donc les différents acteurs d'un marché. Là, on est dans un document qui est donc pas une norme, puisque c'est pas du tout un document consensuel. C'est un document qui est émis par les émetteurs de cartes, le PCI-SSC représentant les grands émetteurs de cartes. Les émetteurs de cartes imposent ces référentiels à tous ceux qui utilisent des données cartes, même si pour le commerçant, ça passe par sa banque. C'est le contrat qu'il a avec sa banque qui va l'obliger à respecter. Mais la banque n'a pas le choix. Elle est obligée de l'imposer de par, elle, son contrat avec l'émetteur de cartes. Donc, c'est fait par les émetteurs de cartes. Alors, même si le processus est ouvert, s'il y a des interviews, des prises en compte, des remarques que peuvent faire les certificateurs PCI, voire les très grands clients, c'est quand même des mesures de sécurité qui sont imposées à l'insu de votre plein gré par les fabricants de cartes. Ça n'est donc pas une norme. Alors après, on peut parler de standard de fait, parce que il n'y a pas d'autres standards dans le monde de la sécurité monétique des données cartes. Mais voilà, c'est pour ça que référentiel, ça dit bien ce que ça veut dire. Et ça fait pas la confusion avec une norme.
Pourtant, Hervé, lorsqu'on écoute les communications du SSC, ils se vantent assez souvent de la contribution de plus de 700 organisations, typiquement à l'évolution du standard, enfin du référentiel plutôt. Et
c'est pour se plaindre, non, que les gens écrivent.
Non, c'est du commercial.
Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de quel quantité
alors
de contributeurs,
c'est pas du tout le nombre, c'est la formalisation du processus. Il y a une définition normalisée du mot norme, et le processus de normalisation tel que réalisé par l'ISO, qui est l'organisme de normalisation, qui est une agence des Nations Unies, qui est le plus connu, c'est un processus qui garantit la prise en compte effective de la totalité des avis. Là, on est dans un système où le PCI-SSC n'a pas du tout à... D'abord, c'est lui qui centralise tout, qui rédige tout, qui fait tout, mais il n'a pas du tout à répondre et à justifier lorsqu'il ne tient pas compte d'une objection d'un des acteurs du marché. Donc après, évidemment, ils font du marketing. De toute façon, c'est une pompe à fric. Hein. N'oubliez pas que pour le commerçant, c'est beaucoup d'argent. Pour le certificateur, devenir certificateur, c'est très très coûteux. Il faut payer une redevance au PCI-SSC. Il faut envoyer ses consultants à des formations qui sont absolument hors de prix pour un contenu très pauvre et qui sont uniquement dispensés par le PCI-SSC. Ils gagnent de l'argent absolument à tous les niveaux dans le système. Donc bien sûr, derrière, c'est essentiellement du marketing. Cela dit, une fois qu'on aura vu les différences de PCI 3.2, qui est notre objectif ce soir, on pourra peut-être faire une petite ouverture sur PCI 4.0, ou peut-être les choses pourraient évoluer.
Alors justement, on va tenter d'atteindre cet objectif. Pierre-Emmanuel Leriche, quelles sont les nouveautés justement de cette version ?
Alors, il y a un certain nombre de nouveautés d'ordre technique et organisationnel. On va peut-être pas citer point à point les changements dans le standard, mais il y a quand même un certain nombre d'exigences qui sont nouvelles et qui vont avoir un certain impact sur les clients, dont la première à mon sens, et je pense que Hervé pourra aussi participer à l'exercice, c'est déjà la notion de documentation de l'architecture cryptographique. Donc il est demandé aux entreprises d'avoir un document qui explique l'ensemble des algorithmes qui sont utilisés, les protocoles, les clés, taille de clés, ainsi que leur date d'expiration, ainsi que leurs usages, pour pouvoir avoir un inventaire précis du matériel cryptographique, mais également avoir un inventaire des HSM qui sont utilisés, par exemple, dans la gestion des clés.
En fait, je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire depuis longtemps. Ils se sont aperçus que, en fait, les gens profitaient du fait qu'il n'y avait pas l'obligation d'avoir un document synthétique pour finalement cacher des algos pourris, des protocoles pas tout à fait bien conçus, une gestion de clés qui correspondait pas aux exigences. Donc là, le fait que le fonctionnement de toutes les infrastructures de gestion de clés, DHSM, SCD, etc., est obligatoire. Je vois ça comme très positif dans l'évolution, puisque de toute façon, c'était nécessaire.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y avait déjà un document qui concernait la gestion des clés par rapport à la révocation en cas de compromission, le renouvellement, la cryptopériode, etc. Mais on n'allait pas au niveau des algorithmes utilisés, des protocoles et des usages de ces clés. Effectivement, je pense que c'est une bonne chose. On a également une exigence sur la gestion du changement, où il est demandé pour tout nouveau changement ou modification sur l'infrastructure de faire respecter le standard sur ces changements. Donc ça peut paraître évident, mais c'est vrai que souvent on parle de maintien de la conformité. Et on se rend compte souvent que lors d'un audit, en tout cas de l'audit de recertification, il y a un certain nombre de points qui ne sont plus conformes parce que, effectivement, on a eu un nouveau serveur que l'on a oublié de mettre en conformité parce que c'est une autre équipe qui l'a installé. Et donc là, l'exigence demande d'avoir une traçabilité à ce niveau-là.
Je pense que ça, c'est effectivement... un changement qui paraît anodin mais qui sera bénéfique et pour le coup qui sera profitable aux organisations, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que une fois la certification passée, donc la pression retombe, on a un an théoriquement avant le prochain audit, et là il s'agit exclusivement de bonne volonté de la part de l'implémenteur ou de la part de la personne qui est garante de la conformité de s'assurer qu'à chaque changement si par exemple un nouveau composant est rajouté dans le périmètre, il sera bien durci. Ça paraît tout bête, mais si cette personne fait son boulot correctement, l'objectif sera atteint. Dans le cas contraire, il y a de bonnes chances qu'à l'audit suivant, lors de l'inventaire qui sera fait peu de temps avant, eh bien, on s'aperçoive que il y a un nouveau serveur qu'on a oublié de durcir. Et là, le fait que cette exigence apparaisse de manière explicite dans le standard, eh bien, ça va forcément nécessiter la création d'un process qui permettra d'atteindre cette exigence, et je pense que ce sera bénéfique pour les clients, enfin pour les organisations qui se font certifier.
Oui, puis ça peut passer sous la forme par exemple d'une checklist dans le processus de gestion du changement avec l'ensemble des points applicables à ce composant pour s'assurer qu'effectivement tout a été couvert et que l'on n'aura pas de mauvaises surprises lors de l'audit de recertification.
Bon, ceci dit, ça va être dur à certains.
Alors, il y a un truc, c'est que comme d'habitude, souvent dans le standard, on a la notion typiquement de significant change, donc un changement significatif. Alors, vous pouvez chercher significatif dans le glossaire. Il y a quand même, c'est assez intéressant. En même temps que le nouveau standard, il y a aussi un nouveau glossaire qui fait apparaître la notion de significatif, mais c'est pas dans le contexte d'un changement significatif, c'est plutôt dans le contexte d'un composant significatif. Toujours est-il que la notion de changement significatif va immanquablement amener des discussions entre les QSA et les audités à propos de qu'est-ce qui est un changement significatif, est-ce que ce changement nécessitait donc de mettre en œuvre la nouvelle exigence. Enfin, je vois déjà d'avance les discussions qui auront lieu pour les audités qui n'auront pas mis en œuvre l'exigence et qui tenteront de justifier que les changements qui font défaut n'étaient pas significatifs.
Effectivement, je partage ton point de vue.
Mais c'est aussi ça le charme de PCI, hein, c'est que ça donne lieu à des discussions passionnantes.
Et du boulot à plein de gens.
Effectivement.
D'autres changements ?
Si on va plutôt dans le chapitre 12, donc on s'éloigne un peu des considérations techniques, il y en a plusieurs qui me semblent de bon augure. Par exemple, il y en a un qui demande à ce que l'organisation s'assure de manière trimestrielle que son personnel suit et respecte toutes les politiques et les procédures en matière de sécurité.
Ouais, je suis d'accord, celle-là, elle est pas mal. Elle est que pour les service providers.
Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, la plupart des modifications ne concernent que les service providers, mis à part celle dont on parlait tout à l'heure sur le change control process et le fait qu'on doit bien s'assurer que les exigences sont respectées lors des changements. Mais toutes celles-là, et dont celles dont je parle aussi, ne s'adressent que aux service providers. Ça n'empêche pas que ça va être, à mon avis, un gros travail pour les organisations parce que tous les trimestres, il y a une série de choses à vérifier. S'assurer que les revues quotidiennes des logs sont bien menées, s'assurer que les revues des règles de firewall ont bien lieu, etc. Tous les trimestres, ça va être, je pense, intéressant. Ça va, je pense que ça va nécessiter pas mal de jours.
Surtout qu'il va falloir effectivement être capable de fournir au QSA les preuves de cette revue. Et effectivement, toujours dans cette volonté de maintien de la conformité, on a vraiment, on sent via cette exigence que le standard cherche à assurer la continuité et le maintien de la conformité.
Oui, il durcit. Enfin, on pourrait dire qu'il durcit un peu le ton, effectivement. Alors, je suppose que l'émergence de cette exigence provient d'observations qui ont été faites sur le terrain et notamment d'observations d'un audit à l'autre, parce que c'est vrai que la plupart du temps, le premier audit, tout est nickel, ou alors il y a des choses dont il est difficile de s'apercevoir. Je suppose que si cette exigence est apparue, c'est parce que le SSC a considéré qu'il fallait en passer par là pour s'assurer que tout au long de l'année qui suit l'audit, les choses sont faites convenablement.
Absolument.
C'est surtout qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne s'intéressent à la sécurité de leur plateforme que juste avant l'arrivée des auditeurs.
Oui, il y a plusieurs manières de dire la même chose, Hervé. Mais...
moi, j'aime bien aussi l'évolution qu'on sent vers la responsabilisation du certifié, du service provider. On voit plus, il y a de plus en plus d'exigences où il faut que la direction établisse les responsabilités [S2] Ouais. [S1] Pour la protection des données. On voit apparaître dans la gestion des incidents la notion à nouveau de gestion de risque. Donc voilà, c'est-à-dire que on demande de plus en plus aux gens de bien être conscients de leurs propres responsabilités, de savoir qui fait quoi et d'analyser les risques. Et ça, c'est des choses qui vont vers aussi le bon sens de la profession.
Il me semble que c'est peut-être aussi un moyen pour le SSC de s'assurer que dans les organisations, les mesures sont prises justement pour nommer des personnes, pour nommer des responsables et pour s'assurer que effectivement, une fois l'audit passé, le PCI DSS est toujours là et est toujours respecté.
Oui, puis c'est vrai que c'est essentiel d'avoir une prise en compte au niveau de la direction des projets comme PCI, puisque ce n'est pas qu'un projet IT, et c'est pas seul le RSSI qui doit gérer ce projet, mais bien l'ensemble des employés et avec une reconnaissance de la part de la direction, effectivement. Mais toujours dans cette optique de maintien de la conformité. Il y a une exigence aussi qui est intéressante et là pour le coup qui est beaucoup plus technique, qui est le fait de documenter, détecter, alerter et corriger toutes les défaillances des systèmes de sécurité critiques, comme les pare-feux, les IDS, le contrôle d'intégrité, les antivirus. Et c'est vrai que d'expérience, lors des audits, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des antivirus qui semblaient fonctionner. Et puis, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que finalement, il ne fonctionne pas, le process n'est plus actif. Et effectivement, dans ce cas-là, on recommande de mettre en place de la surveillance sur le process, s'assurer qu'il fonctionne toujours, voire, pourquoi pas, faire un processus manuel de vérification.
Mais moi, je trouve que c'est aussi effectivement intéressant la supervision, la surveillance et la sécurité des dispositifs de sécurité eux-mêmes. Finalement, on met des tas de trucs pour assurer la sécurité et puis on fait pas attention que les trucs de sécurité eux-mêmes continuent à fonctionner correctement en toute sécurité. Ouais, elle est bien aussi, celle-là.
En fait, cette exigence, elle a deux volets. Il y a un premier volet qui consiste à s'assurer qu'il y a une détection appropriée qui est faite. Et effectivement, la suite, c'est qu'il y a une réponse appropriée qui est faite après une détection. Donc, on a vraiment, par cette exigence-là, on a vraiment l'ensemble de l'action corrective qui doit avoir lieu sous peine de pas être conforme. Auparavant, comme disait Pierre-Emmanuel, on pouvait, up to the QSA, on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. En tout cas, on n'était pas astreint à attendre de la part de l'audité des processus bien cadrés sur la détection et la réponse sur incident.
Les services providers doivent le faire avant février 2018. Donc, il y en a qui vont souffrir.
Je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui, au-delà de la technique, je pense que les process organisationnels à mettre en place derrière ne seront pas simples et vont devoir changer un petit peu les habitudes.
Est-ce qu'on devra mettre de la détection en place, de détection de l'activité malveillante ?
C'était déjà le cas.
Ne serait-ce que via l'IDS, le contrôle d'intégrité, enfin le FIM, les antivirus, il y a déjà un certain nombre de mesures de détection qui sont demandées dans le standard, et bien entendu couplées avec le plan de réponse aux incidents, justement pour pouvoir traiter un incident et le classer, enfin le classifier et puis le traiter.
Si en fait, Joël, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y avait déjà la nécessité de mettre en place des IDS et d'avoir un plan de réponse aux incidents, c'était, on va dire, une vision globale des choses. Or là, en fait, là, on parle de la 18 et de la 18.1. Elle demande à ce qui est de la détection et à ce qui est de la réponse à un incident, spécifiquement lors d'un défaut sur les ce qu'ils appellent les critical security controls. Donc on est plus bas niveau en fait dans quelque chose qui ressemble à ce qui existait déjà au niveau de l'exigence des IDS et du plan de réponse aux incidents.
D'accord. Et il y a un point aussi qui est nouveau en ce qui concerne l'authentification à facteurs multiples.
Oui, en effet. Historiquement, dans les versions précédentes du standard, en tout cas jusqu'à la 3.1, on parlait de two-factor authentication, donc utiliser à minima deux facteurs d'authentification parmi les trois existants, donc quelque chose que l'on connaît, quelque chose que l'on est ou quelque chose que l'on a. Donc depuis la version 3.2, la notion de MFA donc a été introduite. Alors c'est globalement la même chose, si ce n'est que le MFA maintenant est obligatoire sur les consoles d'administration, en tout cas non, sur les sessions d'administration des composants de la plateforme PCI. Mais bien sûr,
tout ce qui n'est pas console, justement. Oui. Dès que c'est à distance,
Alors, dès que c'est à distance, mais même si c'est à distance sur un réseau de confiance, alors c'est ça la. Enfin, ça, c'est, on va dire, l'autre pendant de cette nouvelle exigence, c'est que non seulement ils ouvrent la porte à du triple facteur, éventuellement, hein, c'est pour ça qu'ils ont remplacé le dual par multiple, et également, et c'est là aussi, à mon avis, quelque chose d'assez structurant et d'assez. Qui va engendrer pas mal de travail dans les organisations. Là, on est plus dans la technique. C'est la nécessité pour tous les accès au, à l'environnement des données porteurs, que ce soit depuis les Untrusted Networks, donc quand on est à la maison ou au McDo, à la limite si l'admissis n'est pas sur place, mais également, et c'est ça la nouveauté, quand il est dans les murs de l'organisation, dès lors qu'il n'est pas physiquement en salle machine devant, devant le composant.
Alors après, c'était déjà plus ou moins une recommandation de certains QSA de mettre en place un serveur de rebond avec justement de l'authentification double facteur ou multifacteur pour accéder à l'environnement des cartes.
On n'a pas parlé de... Ils ont créé une annexe A. Quelqu'un a regardé l'annexe A
C'est pas vraiment de. Ce ne sont pas des nouveautés, puisque donc on a effectivement l'annexe A1, A2 et A3. Alors la première, la 1, concerne les prestataires d'hébergement mutualisés. Donc ça, elle était déjà présente dans les versions précédentes du standard. L'annexe 2, enfin A2, regroupe l'ensemble des exigences liées aux entités qui utilisent toujours soit SSL, soit des versions early de TLS, donc qui sont les exigences de mémoire 2.3, je crois 4.1, enfin, dis-moi si je me trompe.
Je vais vérifier.
et donc qui étaient disséminées à travers le standard, et donc elles ont été regroupées au sein de l'annexe A2.
De 2.3, 2.3 et 4.1,
c'est ça. Et,
en gros, A2, c'est toutes les versions de SSL et TLS obsolètes. Oui, quoi.
Bah, en fait, c'est simplement qu'il existait déjà une guideline qui avait été éditée en décembre 2015 qui dictait les bonnes pratiques pour les organisations et qui incitait les organisations à entreprendre un plan de migration pour se débarrasser des versions d'SSL et TLS early. Là, ils ont simplement intégré ce document-là dans la version PCI 3.2. Je pense que ça répond à une volonté déjà de simplification du corpus documentaire, parce que c'est vrai que quand on va sur le site du SSC, il y a beaucoup de docs. Et puis le fait de l'intégrer dans le référentiel en lui-même, ça indique aussi qu'il va quand même falloir commencer à s'en occuper sérieusement, parce que il y a eu un premier report de la date butoir en décembre 2015. Donc je connais certaines organisations qui ont évidemment profité de ce report pour ne rien faire. Là, ils ont intégré l'annexe dans la norme. Ça permet peut-être de rappeler à certains que malgré tout, le SSL, c'est fini, quoi.
Et A3
L'annexe A3 concerne des exigences supplémentaires qui peuvent être demandées à l'initiative soit de la banque acquéreur, soit des réseaux cartes, donc Visa, Mastercard, JCB, Discover ou Amex, pour les service providers. Et parmi donc ces exigences supplémentaires, on retrouve le contrôle des processus de sécurité, on retrouve également le fait que la direction doit reconnaître la responsabilité en matière de PCI DSS, etc., etc. Et donc ça, c'était l'objectif, c'était un document à part qui avait été produit il y a quelques mois, effectivement.
Donc en fait, ce sont des exigences, si j'ai bien compris, qui sont susceptibles d'être imposées à l'audité par sa banque acquéreur. Et en fait, c'est à la discrétion de la banque acquéreur de décider si l'audité devra ou non respecter l'une ou l'ensemble
absolument,
de ces exigences.
C'est bien absolument. Ça. Et ce sont essentiellement des exigences qui ciblent le maintien justement de la conformité. Alors soit, par exemple, un audité qui n'a pas réussi à maintenir sa conformité, l'acquéreur, dans le cadre d'un marchand, pourrait effectivement demander de suivre ces mesures de sécurité, d'exigences supplémentaires.
Une sorte de période probatoire.
Non, je pense que c'est plus des exigences supplémentaires, enfin complémentaires, pour effectivement s'assurer que ça ne se reproduise pas l'année suivante. Ou alors pour tout simplement une entité qui serait plus à risque qu'une autre ou considérée comme plus sensible.
On en a fini là.
On a fait le tour des changements.
Ah, y en a encore un dont on peut parler, c'est la nécessité. Alors ça concerne toujours les service providers. Hein, c'est la nécessité de faire des tests d'intrusion aux frontières de la. Parce qu'en fait, quand on entame une démarche PCI, la première chose c'est définir le périmètre qui est concerné, le périmètre des données. Et en fait, là, l'exigence dont je parle, c'est une exigence qui demande à ce que des tests d'intrusion soient faits aux frontières de ce périmètre tous les 6 mois. Alors qu'avant, si je ne me trompe pas, c'était
annuel.
Tous les
ans. Absolument, oui.
Voilà.
Absolument.
Donc c'est pareil, hein, certains vont penser que ça va donner du boulot au business du pentest.
Et est-ce que dans ces pentests, il y a par exemple de l'hameçonnage ciblé sur les administrateurs?
Du harponnage. Si c'est de l'hameçonnage ciblé.
Effectivement,
c'est du harponnage.
Tout à fait, merci.
Alors, pour cette exigence en particulier, non. Puisque là, il s'agit de tester la segmentation. Puisque, comme le précisait Anthony, la première étape d'un projet PCI, c'est effectivement de définir un périmètre. Et surtout de réduire le périmètre. Parce que plus le périmètre est large, plus il est difficile à maintenir. Et plus on a des chances d'échouer à l'audit. Donc pour pouvoir réduire le périmètre, une des étapes, c'est de mettre en place de la segmentation avec des pare-feux par exemple. Et le but de l'exigence que l'on doit faire donc tous les 6 mois, c'est de vérifier l'étanchéité de l'environnement PCI par rapport au reste du réseau. Mais là, c'est.
Mais justement, moi, je trouve que le fait qu'il ne doit pas y avoir de test d'harponnage sur au moins les administrateurs, les personnes à privilège, c'est peut-être un manque.
Ah bah après, on peut commencer à parler des manques. Hein, oui.
non, ça va être trop long. Non. Et on peut parler de peut-être qu'est-ce qui nous attend pour 4.0, puisque la prochaine évolution est potentiellement une révolution.
Et est-ce que les contraintes changent si jamais justement les prérequis ne sont pas respectés? Donc en d'autres termes, si on n'est pas si l'entreprise n'est pas conforme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là?
Si elle n'est pas conforme, elle n'a pas son attestation de conformité.
Mais non, il n'y a pas de. Enfin, si la question est quelles sont les enfin, comment ça se passe quand il y a une non-conformité et qu'elle n'est pas remédiée, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement dans le standard 3.2 par rapport à la version précédente. C'est ce que disait Pierre-Emmanuel, hein, c'est assez simple. Le QSA, lors de la rédaction du ROC, indiquera qu'il y a une exigence qui n'est pas en place. Et donc la partie prenante de l'audité sera évidemment informée, et donc comme dit Sébastien, l'organisation perd sa certification.
Et qu'est-ce que ça implique?
Ah ben Johan, c'est tout simple. Quand tu manipules des paiements par les cartes bancaires, tu payes un pourcentage. Tu comprends? Tu payes un pourcentage à l'émetteur de la carte. Et ben qu'est-ce qu'il va changer? Ce qui va changer, c'est ton pourcentage. Et quand, alors typiquement sur, pas du tout en France, hein, mais ce que j'avais trouvé très rigolo dans certains pays où des gros acteurs, des gros prestataires de paiement étaient pas conformes, bah quand on augmente de 0,x% chaque mois que tu es pas conforme ton pourcentage, je peux te dire que le coût de la sécurité, il devient tout de suite rentable.
Et pourquoi tu dis pas en France ?
Non, parce que je n'ai aucun écho de quelqu'un qui ait eu ça en France personnellement. Je connais qu'à l'étranger. Voilà, en France, je connais personne à qui c'est arrivé et on lui a dit bon ben là il y en a marre, ça va augmenter de 0,1% tous les mois le pourcentage de prélèvement. Donc je n'ai aucun cas en France. C'est juste que je voulais préciser.
Aujourd'hui, il y a surtout une chasse aux entités qui ont déjà subi une compromission et à qui les réseaux, par le biais des banques acquéreurs, demandent une mise en conformité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, par exemple, admettons un e-commerçant qui subit une compromission, donc il doit rendre de sa conformité à l'acquéreur. En tout cas, il doit mettre en place les mesures de sécurité nécessaires. Et si à une certaine date le commerçant n'est pas en mesure de fournir l'AOC à sa banque acquéreur, la banque acquéreur va devoir payer des pénalités auprès des réseaux cartes. Et ces pénalités augmentent de mois en mois et comme le disait.
L'AOC, hein, c'est l'attestation de conformité, hein, oui. C'est pas l'appellation d'origine contrôlée.
Merci pour la précision.
Non, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent avoir une version naturelle de l'acronyme.
On a fait le tour ?
On a parlé du 4.0.
Oui, alors ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche du PCI, c'est que y a quelqu'un qui a été mandaté pour faire une étude sur le fond et qui envisage une révision en profondeur de la version 4.0 avec quelque chose qui, de ce que moi je comprends vu de loin, va s'approcher plus de l'ISO 27001 et de la responsabilisation du certifié que des mesures de sécurité ultra détaillées, d'une appréciation des risques que le PCI-SSC a fait à votre place, tel que ça marche actuellement.
C'est vrai que ça y fait un peu penser avec certains, un tout petit peu avec certaines des mesures dont on parlait tout à l'heure du chapitre 12, où en quelque sorte on voit apparaître une sorte de PDCA light, très light. Et je pense effectivement que le standard gagnerait en crédibilité si l'esprit 27001 et l'esprit amélioration continue étaient un petit peu plus visibles et un petit peu plus en place.
Oui, moi je pense que c'est l'amélioration continue, l'approche par les risques qui sera sans doute développée dans le 4.0.
Et c'est pour dans combien de temps ?
Pierre-Emmanuel, tu sais quand
non,
est-ce que c'est 4.0 ?
Je n'ai pas du tout d'écho sur le sujet.
Des choses à ajouter ?
Pas de mon côté.
Non.
Bon, eh bien, Anthony, Pierre-Emmanuel, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode.
Merci.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.